Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Mais qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, justement, les vraies voix Sud Radio sont toujours là jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir à vous, mon cher Philippe.
Bonsoir, Jean-Marie.
Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Michel Pouzel nous a retrouvé, notre Auvergnat de l'étape. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Porte-parole du parti Génération. Stella Kamga est avec nous également. Bonsoir à vous, Stella.
Bonsoir, JL.
Étudiante, influenceuse, chers amis. Tiens, je vous propose qu'on commence un petit peu en musique. Nous sommes le 25 mai. Le temps est instable, on l'a entendu, et c'est l'anniversaire de la naissance d'un chanteur qui est quand même extrêmement populaire dans une bonne partie de la France. C'était l'horizon,
le charbon,
le ciel c'était l'horizon et les hommes des mineurs de fond. Pierre Bachelet, né il y a 77 ans, jour pour jour, qui nous a malheureusement quittés il y a 16 ans de cela. C'est aussi cet hymne qui est chanté au début de chaque match au stade Bollaert. Une chanson qui vous est chère, Philippe ?
Ah, je l'adore et j'aime beaucoup Bachelet. Notamment, il a écrit une très belle chanson d'amour. Elle est d'ailleurs magnifique.
Magnifique chanson.
Non, mais c'était un homme sympathique, chaleureux, qui aimait la vie, peut-être un peu trop, paraît-il, mais un homme formidable.
Un homme formidable en tout cas, Michel.
Oui, au Nord, c'était les Corons, c'est la chanson... La chanson culte. Enfin, moi, j'aimerais bien vivre être du Nord parce que avoir eu dans en même temps du Nord la chanson au Nord, c'était les Corons et la chanson d'Enrico Macias, qui était magnifique aussi. Franchement, voilà.
C'est vrai.
Mais ça transcrit bien un peu ce que sont aussi les gens du Nord. Quand même,
non, l'amour des gens du Nord. Vous la connaissiez cette chanson?
J'adore. Je la récite et je dors avec. C'est mon réveil.
Supportrice.
J'adore cette chanson.
Supportrice des sangs et or.
Il y avait une photo de Jean Jaurès.
Oui, une photo de Jean Jaurès. Mais
et chaque verre de vin était un diamant.
Exactement. C'est aussi pour ça que cette région vous plaît. Évidemment,
oui.
Michel Pouzel, le camarade Michel Pouzel. Allez, au
le
programme.
De la terre.
Au programme des vraies voix ce soir. L'armée française doit-elle quitter le Mali après le nouveau coup de force de la junte malienne? Ça fait 8 ans que des milliers de soldats français se battent pour y tenir l'État malien à bout de bras. Manifestement, ça ne suffit pas. On en parlera à 17h30. C'était il y a un an aussi, jour pour jour, George Floyd étouffé par un policier américain pendant 9 longues minutes. Un an après, Black Lives Matter, ce mouvement aux États-Unis et aussi ailleurs dans le monde, jusqu'en France, des manifestations partout. Qu'est-ce qui a changé depuis? On se demandera avec nos vraies voix et notre grand débat. À partir de 18h30, le pays de Pasteur est-il devenu anti-vaccin? Enquête au pays des anti-vax, c'est le titre de l'ouvrage que publie notre invité de ce soir. On en parlera à partir de 18h30, mais tout de suite, les actualités qui ont retenu l'attention de nos vraies voix.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui.
L'émission a commencé?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table.
De l'actualité.
Bien sûr que les vraies voix Sud Radio ont commencé. Philippe Bilger, mon cher Philippe, la semaine dernière, devant l'Assemblée nationale, des policiers ont crié ceci.
Le problème de la police, c'est la justice!
C'était le patron Fabien Van Emmerich du syndicat de police Alliance Police Nationale. Dans l'Obs, et vous l'avez remarqué Philippe Bilger, des magistrats lui répondent « ça suffit ».
Alors, ce responsable d'Alliance et devant la polémique que sa phrase, son slogan avait suscité, a dit que ça résultait d'une sorte de provocation délibérée dans le cadre d'une manifestation. Il est revenu un petit peu sur la formule. Mais ce qui m'a bien plu, c'est que à l'encontre d'une magistrature globalement attaquée, il y a en général des interventions ou bien personnelles, individuelles, de paroles libres, ou bien un syndicalisme judiciaire dont je ne suis pas fanatique, en dehors de ce syndicat FO Unité que j'aime beaucoup. Mais ce qui m'a frappé dans la référence que vous venez d'évoquer, Jean-Marie, c'est un texte pour une fois très remarquable, émanant d'une autorité judiciaire collective qui s'appelle la Conférence des premiers présidents de cour d'appel. C'est un texte remarquablement rédigé dans la forme, extrêmement percutant et respectueux dans le fond, qui met en cause les aberrations du pouvoir politique, quel qu'il soit à l'égard de la justice, les incohérences parfois de Dupond-Moretti et des gardes des Sceaux, et le fait que, en définitive, on exige de la justice des choses qu'elle ne peut pas toujours donner. J'ai bien aimé le ton qui n'est pas du tout corporatiste et qui surtout se termine par une proposition que très modestement j'ai faite depuis des années, restaurer les journées portes ouvertes. Il propose les assises générales de la justice avec véritablement toutes les professions qui participent à l'œuvre de justice. C'est très remarquable. J'ai trop souvent critiqué l'institution et sa hiérarchie pour ne pas applaudir cette tribune-là.
Michel Pouzel.
Oui, j'ai pas eu cette tribune, mais je fais confiance à Philippe Bilger pour ses analyses là-dessus, qui sont plus pertinentes que moi. Il y a quand même quelque chose qui est révélé par cette colère des policiers, et je pense pas que c'était simplement un débordement du syndicat Alliance. Il y a un sentiment très fort dans la police nationale quand on discute avec un bâton rompu
de
frustration et de dire voilà, on arrête des gens qui sortent le lendemain. Donc ce sentiment d'incompréhension qui s'est développé entre la justice et la police est bien réel dans la société, mais je crois que surtout on est dans une société qui ne comprend plus comment fonctionne la justice. Enfin, faisons un sondage pour demander aux Français ce qui est une cour d'appel, une cour d'assises, ce qui est un juge d'application des peines, quelles sont ses prérogatives, quelle est la différence entre un délit et un crime dans le code pénal. Tout ça a été extrêmement complexifié d'une certaine façon. Vous savez, il y a une théorie qui dit que quand on veut que le peuple ne s'approprie plus les choses, on complexifie le discours. Et donc, on l'éloigne de ça. Moi, j'ai une expérience sur le code juridique. En étant député, j'avais une collaboratrice, et je vais prendre cet exemple parce qu'il est flagrant, qui travaillait pour moi, et donc qui me disait que c'était très compliqué les textes de loi. Ouais, en tant que député, on doit se pencher là-dedans. Moi, j'ai pas fait d'études de droit. Et quand j'ai pris il faut s'y mettre. C'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est l'image qu'on en donne. Et tant qu'on n'arrivera pas à rendre transparent la manière dont fonctionne la justice, tant qu'on lui donnera pas les moyens exacts de son indépendance, et les moyens de travailler, alors on aura du mal. Et pour en revenir à ce que disent les policiers qui disent oui, le lendemain, on revoit les mêmes gens dans la rue. Moi, une autre anecdote que j'ai connue en Seine-Saint-Denis quand je travaillais à Bondy. Non seulement les commissariats étaient sous-dotés, mais surtout ils étaient sous-dotés en officiers de police judiciaire. C'est-à-dire que les gens sur le terrain attrapaient des petits dealers, des choses comme ça, etc. Mais l'officier de police judiciaire qui devait lancer la procédure, voilà, et donc la traduire dans le droit, il n'y en avait pas assez. Donc, eh ben, une fois sur deux, au bout de 48 heures, on disait, c'est pas grave, on va hiérarchiser. Donc tout ce système-là, on voit bien, ne fonctionne pas comme il devrait. Manque de moyens, et l'un et l'autre ne se parlent plus, ou se parlent mal en tout cas, et de cette double incompréhension naît une situation qui, alors là pour moi je le redis toujours, et je parle sous la tutelle de Philippe, ça met la démocratie en danger. Si les Français ne comprennent plus comment fonctionne leur système judiciaire et son indépendance, alors c'est la démocratie qui est remise en cause quelque part.
La réponse de Philippe Bilger dans quelques instants. Stella Kamga, les Français ne comprennent pas la justice.
Oui, j'étais à cette manifestation.
Policiers ?
Oui, et effectivement, il y a quelque chose qui était parlant, j'ai même envie de dire palpable. C'est-à-dire que on a pris des policiers qui sont venus témoigner par leur expérience, qui leur était arrivé. Ils avaient été agressés, mutilés pour certains, poignardés pour d'autres, et personne n'a été interpellé, personne n'a été inculpé, rien. Il y a deux choses qui se posent. C'est que quelque part aussi la justice, c'est ça, c'est qu'on peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Donc même quand il y a les caméras vidéo, que sur les caméras vidéo on n'est même pas capable de distinguer la personne qui commet le crime. Très souvent c'est des jeunes en capuche, masqués et tout. On sait que c'est eux, mais tant qu'il y a pas de preuve, on ne va pas inculper quelqu'un. Voilà.
On ne va pas condamner dans le doute.
Exactement. Charlotte Donnella parlait de ça justement sur une matinale. Et c'est un problème. Et le fait également qu'on arrête d'autres et que le lendemain justement on les relâche, c'est également un problème. Donc ce qui suscite effectivement un sentiment d'agacement, et il y a rien de plus énervant que voilà, tu toute personne, hein, que ce soit la police ou un chef d'entreprise, quand tu fais un travail et que le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est énervant. Donc oui, il y a des policiers qui font leur travail d'inculpation, de trouver les suspects et tout, et la justice ne fait pas, enfin du moins pour le coup je dirais pas la justice dans sa généralité, pour ne pas faire de généralité, mais quand effectivement ils font leur travail et qu'au final les personnes arrêtées ne sont pas inculpées ou s'en sortent comme ça, blanc comme neige et tout, oui, ça frustre quand même. Donc je comprends leur...
Philippe Bidger, quelles sont les relations entre la police et la justice, pardonnez-moi.
Jean-Marie, il y a deux points dans les interventions de mes amis. Sur Michel a commencé par quelque chose qui me paraît très pertinent. En réalité, on fait des campagnes d'information sur la justice beaucoup trop sophistiquées. Il aurait été très simple depuis des années de diffuser une brochure expliquant la structure élémentaire de l'univers judiciaire et le rôle des différents protagonistes. On a préféré faire des choses parfaitement inutiles pour la culture démocratique au lieu de faire ça. Et pour répondre à Stella, il est évident que les policiers, lorsque ils sont obligés d'avoir affaire à l'institution judiciaire parce qu'ils ont été le plus souvent victimes et plaignants, ont du mal à comprendre que celle-ci ne peut pas systématiquement mettre l'extrémité de la sanction pour chacune des affaires qui lui sont soumises. C'est un gros problème. L'individualisation des peines est un principe qui est fondamental et il impose en définitive des disparités dans les sanctions, et ça, parfois, les policiers ont du mal à le comprendre.
Mais ça, c'est pas nouveau, en revanche, Philippe Bidger. Donc, qu'est-ce qui a changé?
Non, mais c'est que c'est pas nouveau, mais le gouffre entre magistrature, entre une certaine magistrature et la police est en train de s'aggraver. Chacune de ces institutions ne comprend pas bien la logique de l'autre, et en définitive, les policiers... considèrent un peu trop rapidement que, dans leur jugement, les magistrats sont injustes à leur égard, alors que ils ne peuvent pas apposer un prix global sur l'ensemble des transgressions dont ils sont saisis.
C'est pas un forfait, en tout cas, Stella.
En réalité, moi, du coup, la seule question que je me pose, et si peut-être Philippe peut m'apporter un éclaircissement, c'est que le problème, c'est que ces petites racailles-là, généralement, sont connues des services de police. Et comme dans le cas de Marjorie, la petite qui a été poignardée très récemment, d'ailleurs, qui a 17 ans, son assaillant était connu des services de police. Donc, quand on relâche les petites frappes comme ça, et que finalement, il se transforme en criminel à 17 ans, quelle est la solution, en fait ?
En un mot, Philippe, Michel, ensuite.
Ben là, quand on regarde bien l'affaire de Marjorie, elle est tout de même plus complexe qu'on l'évoque, c'est-à-dire il y a le crime est odieux, mais il est très difficile au regard de l'ensemble des affaires judiciaires et de leur nature singulière d'avoir des démarches, je veux dire, simples à faire. Dans un monde idéal, toutes les transgressions, toutes les dérives seraient supprimées, censurées, sanctionnées, mais on sait bien qu'on l'est pas. Et donc, malheureusement, je le dis avec beaucoup de regret, il y aura toujours une rançon considérable à payer, parce que malheureusement, notre démocratie ne sera pas tout interpellée, pas tout réprimée. C'est triste, mais c'est comme ça.
Michel.
Oui, quelques mots. Effectivement, c'est triste et c'est comme ça, comme vous le dites, Philippe. Et moi, je ne suis pas simplement fataliste. Toute la chaîne aujourd'hui a été un peu démantibulée. La prévention spécialisée dans beaucoup de villes a été dépouillée pour des raisons budgétaires. Il n'y a plus de prévention spécialisée. La PJJ, la protection de la jeunesse, moi, j'ai œuvré là-dedans quand j'avais 19 ans et quand j'étais député, j'ai fait venir à l'Assemblée, n'a pas les moyens nécessaires à couper ces jeunes. Les épides qui sont, vous savez, gérés par l'armée, qui sont de l'insertion, qui fonctionnent plutôt bien. Moi, j'en ai une dans à Boîtier-sur-Orge, ça fonctionne plutôt bien. Les épides, on a failli les fermer sous François Hollande, et puis après, on a dit, oh, peut-être pas. Voilà. En fait, tous les dispositifs qui pourraient aider. Je dis pas que c'est pas, il y a pas de baguette magique. Il faut arrêter de penser qu'il y a une solution magique. Mais tous les dispositifs qui pourraient aider à
La prévention est aussi voire encore plus mal lotie que la répression.
La forme de répression, parce que la PJJ ou l'EPIDE, c'est pas des vacances, hein, c'est vraiment
Allez, restez avec nous en tout cas sur Sud Radio.
Jean-Marie, juste un mot, à l'instant on me signale, et c'est pas faux, qu'il existe des maisons du droit, qu'elles sont importantes, et que les mairies ont parfois un service juridique très élaboré.
Oui, et qui gagneraient à être davantage connues par les concitoyens. Restez avec nous sur Sud Radio à suivre les débats des vraies voix, l'armée française doit-elle quitter le Mali et qu'est-ce qui a changé un an après la mort de George Floyd? À tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Michel Pouzol, Philippe Bilger et Stella Kamga. Juste avant de parler de la situation politique au Mali où se battent encore des milliers de soldats français et ce depuis 8 ans, Stella, vous nous emmenez dans un autre pays d'Afrique, le Sénégal. D'abord, je rappelle, un peu partout dans le monde, il y a 6 jours a eu lieu la journée mondiale contre l'homophobie et il y a quelques heures a eu lieu à Dakar une manifestation qui exigeait la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal.
Oui, alors ce n'est même pas qu'au Sénégal, mais bon, l'événement a été quand même assez très houleux au Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a carrément une manifestation de des milliers de personnes qui se sont rassemblées, qui ont brûlé le drapeau LGBT, qui ont appelé à mort toute personne qui était soupçonnée même d'être gay ou homosexuel, bref, peu importe. Et en fait, je viens du Cameroun et c'est à peu près pareil. J'ai vécu des scènes dans ma vie, étant adolescente même quand j'habitais toute seule à Yaoundé, des personnes qui étaient gays, qui étaient brûlées vives. C'est-à-dire qu'on sait que t'es gay ou on te voit un homme efféminé, même pour eux, en fait, un homme efféminé est susceptible d'être gay. Pourtant, c'est pas forcément vrai. Tout homme efféminé n'est pas forcément gay. Donc, on arrêtait la pauvre personne et il se faisait soit frapper jusqu'à ce qu'il décède avec des lattes, des parpaings, voilà, ou il se faisait brûler vif, c'est-à-dire qu'on lui versait du sang, de l'essence et on claquait l'allumette et boum, il prenait feu. On le laissait là mourir comme un vulgaire animal.
Et ça vous avait marqué déjà.
Oui, et autant je suis pas en train de dire que on doit imposer ou alors je sais pas moi obliger les gens à être gays, ça n'a rien à voir, mais il y a pas de raison à crucifier ou à lyncher à mort toute personne par rapport à ce qu'il fait dans sa chambre.
Je peux
en
relire
fait.
Quelques propos qui ont été tenus lors de cette manifestation. Oui. Alors le magazine Têtu en France parle de plusieurs centaines de personnes, c'était à Dakar, un représentant d'une association étudiante religieuse qui explique: nous les tuerons, nous les brûlerons vifs, c'était des propos qui étaient tenus en public. Nous n'accepteront jamais l'homosexualité. Il s'appelle Demba Diop. Il n'a, à ce stade, pas été poursuivi par qui que ce soit.
C'est surtout qu'il faut prendre ces mots au sérieux et qu'ils le feront vraiment littéralement. En réalité, ça a été un de mes combats, en fait. C'est-à-dire que depuis que je suis vraiment militante pour les causes, j'ai beaucoup défendu ces personnes-là. Parce que j'estime qu'on n'a pas à brûler quelqu'un par rapport à ses orientations sexuelles. Et c'est là où, justement, on va revenir tout à l'heure, mais quand je disais que je trouvais que le combat de Black Lives Matter, pour moi, c'était un combat obsolète, c'est justement à cause des personnes comme ça. Parce qu'il y a des Sénégalais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Gabonais, il y a plein d'Africains qui sont persécutés au Cameroun. Il y a 2 semaines d'ici, quelqu'un était enfermé pour 5 ans de prison parce qu'on a découvert qu'il était gay. Et encore que les 5 ans de prison, je crois c'est pour le protéger. Parce que si on le laisse en liberté, dans sa maison et tout, la population va le tuer.
Oui, non, mais je crois qu'il faut rappeler que il y a 70 pays au monde, à peu près, sur 193, où l'homosexualité est encore un crime.
C'est le cas du Sénégal. C'est un délit au Sénégal et la manifestation demandait la criminalisation.
Et donc, il faut rappeler l'importance du combat, même si parfois certaines expressions du combat pour l'égalité dans ce domaine-là peuvent surprendre certains, mais c'est un combat qui est fondamental parce que les choses ne sont jamais gagnées, ni ici ni ailleurs. Moi, je pense à un ami qui avait été dans une manifestation à Moscou, qui avait été frappé violemment par les nervis de la police locale. Donc il y a encore ce sentiment de grandes violences là-dessus, et l'égalité, on en est loin, effectivement. Donc, merci pour ce rappel. Et je pense que c'est un combat fondamental pour, bien sûr, pour l'égalité, mais pour la dignité humaine partout où ça se trouve. Quoi.
Évidemment. Philippe Bilger.
L'indignation de Stella est tout à fait légitime et j'aime beaucoup l'humanisme authentique à partir duquel elle dénonce ses horreurs. Deux choses. c'est très difficile, même dans des pays profondément démocratiques comme le nôtre, de dominer l'étonnement devant la différence et de ne pas aboutir à des agressions. Premier point, et j'espère que l'Afrique, qui est apparemment très en retard sur ce plan-là, connaîtra l'évolution lente, probable, douloureuse, qui la conduira un jour, j'en suis persuadé, à accepter dans sa grande majorité des différences qui ne font de mal à personne. Mais ça n'est jamais gagné. Et surtout, j'aime bien que Stella ait mis en évidence qu'il y a des indignités, j'allais dire, plus importantes que d'autres.
En tout cas, les propos-là que je vous ai recités ont été tenus, effectivement, et c'était important aussi de les lire, parce que c'est pas le genre de choses qu'on se permettrait de dire, en tout cas publiquement, en France. Restez avec
encore
nous.
Que. Encore on en que, entend ouais. Tous les jours, il y a encore des propos tenus ce week-end qui étaient scandaleux par des responsables politiques nationaux.
Restez avec nous malgré tout sur Sud Radio. Les vrais voix reviennent dans quelques instants pour les débats des vrais voix. On revient en Afrique avec nos soldats, tiens, dans quelques instants sur Sud Radio. Est-ce que les soldats français doivent quitter le Mali, victime d'un énième coup de force de sa junte militaire que pourtant nous soutenons à bout de bras? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez, à tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Michel Pouzol, Philippe Bilger et Stella Kamga. Tout de suite, le premier débat des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
L'armée française doit-elle quitter le Mali? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Ça fait 8 ans, chers amis, 8 ans que des milliers de soldats français se battent au péril de leur vie au Mali contre les terroristes. 8 ans qu'ils tiennent à bout de bras l'État malien. Il y a 9 mois, des militaires maliens ont pris le pouvoir par la force, renversé le président élu. La France et la communauté internationale ont poussé le Mali à mettre en place un gouvernement civil de transition. Et bien hier, nouveau coup de force des militaires. Ils ont arrêté le président. Ils ont arrêté aussi le Premier ministre. La communauté internationale condamne, la France aussi. Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
C'est une condamnation unanime, et de l'Union africaine, et de l'Union européenne, et de tous les voisins du Mali. C'est une condamnation que nous allons reproposer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je précise que si d'aventure il n'y avait pas un retour à l'ordre de la transition, nous prendrions des mesures immédiates de ciblage contre les responsables militaires et politiques qui entravent la transition.
Des mesures de ciblage, mais en attendant, nos soldats continuent à tenir ce régime à bout de bras, au péril de leur vie. Je le disais, question, l'armée française 16 doit-elle quitter le Mali? Stella Kamga.
Alors, pour le coup, ça ne dépend pas vraiment de notre avis. Parce que là, je suis obligée de le préciser.
Non,
parce que
on sait que ça ne changera rien, qu'on soit pour ou qu'on soit contre.
Non, mais en réalité, ce n'est pas à vous, parce que je reviendrai sur les propos du leader de la LDNA, qui a des origines maliennes.
Ça, c'est autre chose encore.
C'est ça, qui n'arrête
plus. À la limite, revenons malgré tout sur la situation directement.
Ce que je veux dire. Voilà. Parce qu'il a pris la parole pour dire que oui, les militaires français doivent retourner en France, qu'ils n'ont rien à faire là-bas et tout. Mais j'ai envie de dire, mais quand les pays, Mali, Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont les accords avec la France, les accords stipulent que si jamais justement il y a des putsch ou des problèmes comme ça avec l'armée, ben la France est censée être là justement pour protéger le gouvernement légitime en place. Donc oui, selon les accords, la France est là. La France honore en réalité sa part du marché, mais ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, ne le connaissent pas. Bien évidemment, on déplore le fait que il y a une certaine ingratitude de la part de beaucoup de panafricains qui, dans les médias, n'arrêtent pas de dire oui, la France se mêle de tout, mais non, en réalité, c'est des accords qui dépassent largement, l'entendement ou le niveau de discussion du quartier de certains panafricains en question. Ce qu'on déplore encore, autre mesure, c'est que ces personnes-là qui, justement, soutiennent ces pays-là au risque de la vie, elles ont des familles et très souvent, les familles en question ne comprennent même pas ce qu'elles font là-bas. Elles ont juste envie que leur père, leur sœur ou leur frère ou leur cousin rentrent au bercail et voilà.
Et vous parlez des soldats en tout cas français. Mais effectivement, on est en droit de se demander aussi s'ils savent vraiment, si ça vaut encore le coup qu'ils se battent pour soutenir ce pays. Alors on rappelle, c'est contre les terroristes, c'est pas contre la junte. Michel Pouzol.
Oui, la situation, elle a toujours été compliquée avec le Mali, mais on a un accord politique effectivement vous le disiez, avec le Mali, qui est important, qui porte ses fruits sur plein de choses. On a beaucoup travaillé dans l'Essonne ou ailleurs avec le Mali, et moi, je connais plein de cercles au Mali qui ont changé réellement la vie des gens par des coopérations décentralisées intelligentes, par des échanges bilatéraux, et pas simplement du pseudo-colonialisme comme ça a pu être fait ailleurs. Oui. Donc, le Mali, il y a des choses qui ont été faites. Après, on le sait, c'est le terreau, c'est un des terreaux du terrorisme islamiste
dans la partie nord.
C'est aussi pour ça qu'on y est. Moi, ce que je déplore, c'est que depuis 8 ans, nous n'ayons pas réussi à mobiliser le reste des forces européennes autour des forces françaises, que nous n'ayons pas réussi à construire une diplomatie internationale autour de ça, avec l'Union des pays africains, parce que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Mmh. Et on peut dire demain, quittons le Mali, rentrons chez nous. Eh bien, un, pour les Maliens, ça risque de sombrer dans le chaos, et ça donne des portes ouvertes gigantesques
à l'immigration qui est pas
et aussi au terrorisme. Il faut le dire, on lutte aussi contre le terrorisme.
On lutte contre le terrorisme. La question
d'abord,
est
sur le continent africain,
ça vaut le coup.
C'est la première des batailles.
Est-ce que ça vaut le coup de continuer si malgré tout l'État qu'on soutient contre le terrorisme n'existe plus et se comporte ainsi?
Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que veut dire le ministre des Affaires étrangères quand il dit on va cibler.
En général, ça se termine par des sanctions.
Si c'est des sanctions, c'est une chose. Cibler, c'est toujours un peu dangereux quand on parle dans une situation militaire.
Ouais. Tout à fait.
Honnêtement, c'est une décision qui est bien au-delà de mes compétences. Mais l'importance de construire au niveau européen une force qui soit aussi financée par les budgets européens,
parce que là, pas que par nous,
dans ce territoire africain et plus largement autour du Sahel, parce que c'est bien là où l'enjeu est fondamental,
c'est
la région du Sahel.
Ça ne profite même pas qu'au Mali, il y a aussi le Nigeria et le Cameroun.
Et puis il y a le sud de l'Égypte, il y a le sud de l'Égypte, le sud de l'Algérie, etc. Il y a vraiment toute cette région-là du Sahel où il faut vraiment qu'on arrive à construire les bases d'un apaisement militaire et des solutions diplomatiques. Sinon, on va traîner encore pendant 20-30 ans ces problématiques-là qui pose un vrai problème au pays. Quand on dit le meilleur remède contre l'immigration, c'est le développement local, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, il y a une logique là-dedans.
Philippe Bilger, je le disais, ça
complexe.
Fait 8 ans.
Il est difficile d'avoir un point de vue péremptoire sur des géopolitiques qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est clair. Je suis un amoureux de l'Afrique francophone et notamment du Mali, mais je n'ai pas la science infuse pour dire ce qu'il en est là-dessus. En tout cas, la frontière me semble très mince entre... D'un côté, les interventions légitimes de la France pour, par exemple, défendre la communauté française là-bas, ou bien éviter la déstabilisation dangereuse par le terrorisme, ou bien même tenter de restaurer une tranquillité publique qui permettra à des démocraties de continuer à vivre. C'est d'un côté cela, mais de l'autre, il faut que la France prenne garde au fait que... par exemple, à propos du Mali récemment, elle n'est pas légitime pour tenter à toute force de créer une stabilité politique qui ne relève pas de sa responsabilité.
Non.
Elle n'est pas chargée non plus de s'immiscer dans tous les conflits internes du Mali ou d'autres pays parce que sinon, elle n'en finirait pas. Donc, la frontière est très mince entre l'action légitime et l'immixtion scandaleuse.
Et l'ingérence. Stella Kamga, le mot de la fin.
Philippe Bilger, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, si la France a des accords avec ces pays-là, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et tout ça, s'il y a des conflits comme par exemple Boko Haram, la secte terroriste islamiste qui terrorise la frontière au Nigeria, le Cameroun, pour le coup, la France, quand elle intervient, elle honore sa part du contrat, elle honore sa part du marché.
Je crois qu'il est d'accord avec vous.
Si elle ne s'immisce pas, comme il dit, elle est obligée quelque part de donner son avis, parce que s'il n'y a pas justement de gouvernement qui permet en sorte que la France puisse justement honorer sa part du contrat, du marché, il y aura une friction en fait. Donc quelque part, elle est obligée de donner son avis parce que
Et il faut dire que l'intervention française au Mali depuis 8 ans, elle a été faite aussi à la demande des Maliens eux-mêmes,
surtout,
qui ont eu besoin. de cette stabilité pour pouvoir reconstruire les fondamentaux d'un pays démocratique et d'une administration centrale, etc. etc.
Enfin,
c'est un vrai chantier, ce qu'il y a.
C'est un chantier difficile. En tout cas, c'est très long. Cette guerre dure depuis 8 ans pour nos soldats français. On vous pose cette question.
Très, très inquiétant, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Et on vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que l'armée française doit quitter le Mali? Je disais que ça faisait 8 ans. Vous êtes 93% à répondre oui. Elle doit quitter le Mali tout de suite. Le deuxième débat des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
Black Lives Matter, le slogan, c'est le slogan que vous avez entendu depuis un an, un peu partout, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. C'était il y a un an, je le disais, à Minneapolis, aux États-Unis, George Floyd, interpellé par le policier Derek Chauvin. Il le plaque au sol, l'étouffe pendant de longues minutes, ça dure 9 minutes en tout, avec son genou sur le cou. La scène est filmée par une passante. À la fin, George Floyd perd connaissance, il meurt. Les États-Unis sont bouleversés, des manifestations, des émeutes éclatent un peu partout, des manifestations jusqu'en France. On se pose cette question sur Sud Radio. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de George Floyd il y a un an? 0-826-300-300, vous nous appelez. Julien nous appelle. Bonsoir à vous, Julien.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Pardonnez-moi,
bonsoir,
je vous ai appelé Julien, c'est Nicolas. Excusez-moi, mais à culpa, je vous ai confondu. Toutes mes excuses.
Pas de problème.
Nicolas, bonsoir à vous, Nicolas. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Qu'est-ce qui a changé depuis Black Lives Matter?
Alors, c'est vrai que déjà, ça devient un symbole quand même, parce que le nom Floyd, voilà, on est français, l'histoire est loin, et pourtant, avec la mondialisation des médias, on a été impacté en France par ce fait divers, malheureux, hein, mais qui a pris une allure très symbolique mondiale, hein, avec surtout l'image. Moi, je trouve que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, dans l'idée que la police américaine puisse avoir quelques idées sur les Noirs, un peu de manière assez raciste, avec des actes très violents, c'est pas un fantasme, c'est des réalités qu'on a pu voir devant nous, avec des actes barbares, en fait, hein, c'est une forme de ségrégation des Noirs, c'était pas de la paranoïa ni du communautarisme. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça nous a sauté aux yeux, on pouvait pas dire que c'était pas vrai. Parce que jusqu'ici, on a eu des affaires, on pouvait penser qu'il y avait des manipulations des médias, des manipulations, justement, de la communauté noire pour se faire valoir. Alors que là, non.
À supposer
non,
qu'elle
moi,
existe, hein, c'est toujours facile de parler de la communauté en tant que telle.
Voilà, ce qui lui est arrivé à ce malheureux, c'est devenu un symbole. Comme la communauté gay avait été attaquée dans les années 60, il y avait eu des émeutes dans les bars à Stonewall, ce qui avait créé la Marche des Libertés. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce fait divers est devenu quand même mondialisé. Moi, ça. Voilà, je sais qu'à mon enfant, mon fils, je lui en parle.
En tout cas, c'était il y a un an, c'est pour ça aussi. Qu'est-ce que ça a changé, justement? Là, vous parliez des États-Unis. Merci beaucoup, Nicolas. Désolé de vous avoir appelé Julien. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, en tout
cas. C'est mon deuxième prénom.
Mais merci Nicolas, Julien, dans ce cas-là j'ai toujours raison à la fin, merci de me le rappeler et vous nous rappelez quand vous voulez au 0826-300-300. Qu'est-ce qui a changé depuis un an, Philippe Bilger?
Alors, évidemment, on a compris, mais ce dont on ne doutait pas, qu'il y avait des infractions, délits ou crimes malheureusement inspirés par une forme de racisme aux États-Unis, même s'il n'y a pas que les Noirs, parfois, qui sont victimes d'actes policiers. Et dans la police américaine, il y a beaucoup de Noirs, par ailleurs. Mais ce qui m'a paru important, c'est qu'en définitive, malgré la volonté que certains ont eu de plaquer cette réalité américaine tragique et criminelle, en l'occurrence pour George Floyd, sur la réalité française, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que les gens de bonne foi, une majorité, a compris qu'en réalité, il n'y avait pas l'ombre d'une similitude entre la police française et les transgressions américaines. Et je dirais que la tragédie George Floyd a probablement éclairé les États-Unis, j'en suis persuadé, mais en même temps a remis les choses en place en France avec une volonté de ne pas comparer l'incomparable.
Michel Pouzol.
Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler que le système américain est très différent du système français. Il n'y a pas une police. C'est pas une mission régalienne. Il y a des polices dans chaque État, dans chaque ville, etc. C'est des polices privées. Les chefs de police sont élus. Donc, la différence, elle est pas la même dans toutes les villes. Deuxième chose, le problème de racisme aux États-Unis, c'est un problème historique, qui remonte à l'esclavage et à la guerre de sécession et qui n'a jamais été finalement totalement réglé. Il y a de la marche de l'espérance de Martin Luther King à Malcolm X, aux Black Panthers à l'époque des années 70, à aujourd'hui, on voit bien que ce point de clivage est extrêmement important dans la société américaine, et il existe, et là, on le voyait, c'est flagrant, enfin, je veux dire, les prisons américaines sont à 80% remplies de gens de couleur, alors qu'ils représentent 12% de la population, ou 13%, donc on voit bien qu'il y a... Et si on faisait les statistiques sociales, ce serait la même chose, donc c'est très compliqué, tout ça est beaucoup plus compliqué que la réalité française, et s'il y a des problèmes dans la réalité française, ça sont certainement pas les mêmes que la réalité américaine. Ce que ça a changé quand même, moi j'ai regardé aujourd'hui les résultats, c'est que il y a quand même eu, alors je vais parler des États-Unis d'abord, parce que c'est une prise de conscience américaine, puisque là aujourd'hui, des débats sont ouverts sur la police. Faut-il les armer comme ils sont armés? Faut-il les réformer? Faut-il, il y a des villes où les policiers ont été désarmés, et il n'y a pas plus de délinquance pour autant, bizarrement. Donc c'est quand même un vrai signal dans un pays où tout le monde a le droit d'avoir une arme à feu sur lui. Je voyais que le président Biden posait la question de renforcer la formation des policiers. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Voilà. D'autres disent il faut mettre plus de moyens sur le système social. Et donc, la cause sociale remonte aussi, et la prévention remonte là-dessus. Donc, on voit bien que ça fait bouillir un peu la société américaine, et plutôt dans des effets positifs. Et puis, il y a quand même quelque chose de grand symbolique au monde, c'est que il y a des gens qui veulent. Moi, je pense qu'on n'a pas fait le bilan de cette période de l'histoire de l'esclavagisme, du commerce triangulaire, et de d'où on vient les uns et les autres. Globalement, j'étais très touché qu'un type comme Lewis Hamilton,
champion
pilote de Formule 1, le plus grand champion de maintenant, ça va être le plus grand champion de l'histoire de Formule 1, ait réussi, y compris l'année dernière dans chaque Grand Prix, à mobiliser des gens qui, honnêtement, sont les plus éloignés de ce genre de problématique, parce que c'est un monde de gens qui ont des passions qui sont très riches et qui parcourent la planète. Eh bien, il y a eu aussi une prise de conscience, y compris dans des milieux comme ça, lui disant, voilà, je suis le seul de l'histoire noir, à avoir fait un jour de la Formule 1, il n'y a pas de mécanicien noir, il n'y a pas d'ingénieur noir, etc. Donc, au niveau de cette symbolique-là globale, c'est quelque chose de formidablement une vraie avancée, parce que, honnêtement, le dossier d'égalité en fonction de la couleur de peau est plus que jamais ouvert encore. On est loin du compte.
Stella Kamga.
Par rapport aux États-Unis, effectivement, ça reste quelque chose d'assez particulier, parce que M. Poussol l'a rappelé, les États-Unis, c'est particulier. Le rapport entre les races, c'est particulier. Ça, c'est un fait. Maintenant, allons égal, continuons dans les faits. Qu'est-ce que, justement, le slogan Black Lives Matter a changé pour les Noirs aux États-Unis? Je suis désolée, je vais être honnête, je vais dire rien. Parce que moi, justement, jusqu'ici, j'ai fait un bilan. Jusqu'à récemment, encore, LeBron James a pris, pour le coup, je suis obligée de le dire, a posé la tête d'un policier sur son profil et a dit ce policier a descendu une noire. Il n'a pas donné les circonstances
Ça avait fait scandale, alors que le
policier en question venait de sauver la vie d'une autre personne noire parce que cette personne-là devait se faire poignarder quelques minutes plus tôt. Heureusement qu'il est arrivé à temps. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de casses, beaucoup de commerces brûlés. Et justement, vous parliez d'un test de crime qui n'a pas augmenté. Mais ça, c'est une ville, parce que le président Biden aussi, par rapport à Minneapolis, a fait un test, a essayé de désarmer la police et pour voir ce que ça donnait. Bah, le test n'a pas été concluant et donc il a dit on va réarmer la police, mais en fonction, il a essayé d'arrondir les angles. Mon problème, en réalité, avec le slogan Black Lives Matter, je suis pas contre George Floyd. Ce qui lui est arrivé est malheureux. Et effectivement,
je rappelle que le policier a été condamné.
Voilà, il a été condamné, donc ça veut dire que justice a été faite.
On attend de voir la peine.
Exactement. Ouais. On parlait de 12 ans de prison.
La peine n'est pas prononcée.
C'est pas encore prononcé. Il a été jugé coupable par le jury.
Il est coupable, mais la peine n'a pas été prononcée.
J'ai pas dit prononcée, mais en tout cas, de ce qu'on dit, probablement. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour nous autres, enfin, quand ils disent Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter ne s'est pas arrêté aux États-Unis, ça a continué en France, ça a même continué en Afrique, de par le monde entier, et beaucoup d'Africains, comme moi, ont remarqué une chose, c'est que Black Lives Matter, en réalité, ça s'est limité aux États-Unis, et pour ceux qui ont voulu caricaturer le mouvement à la France. Parce que Black Lives Matter, c'est important aussi en Afrique. Mais curieusement, Black Lives Matter n'est jamais arrivé en Afrique.
On est bien d'accord.
Il y a beaucoup de misère, beaucoup d'enfants noirs qui crèvent, on parlait du Sénégal tout à l'heure, beaucoup de gays noirs qui seront brûlés, violés, agressés, crucifiés, tout ce que vous voulez. D'autres qui sont maintenus en cage dans les pays arabo-musulmans parce qu'ils essayent de traverser la frontière pour arriver en Europe, qui serait le paradis. Black Lives Matter a juste été, au moment T, une exploitation, je suis obligée de le dire, pour les Américains et une fausse caricature pour les Français. Ensuite, il y a un bilan qui est sorti, les principales têtes du mouvement Black Lives Matter, qu'est-ce qu'elles ont fait dès qu'elles ont eu l'argent? Elles sont allées s'acheter des condors, comme on dit aux États-Unis, des gros appartements dans des quartiers majoritairement blancs, parce que je suis obligée de le préciser, en vivant la belle vie. Donc,
en tout cas, les quartiers riches.
C'est ça. À quel moment Black Lives Matter, en réalité, compte même pour ceux qui sont aux États-Unis?
Non,
je
ne
suis pas convaincue. Exactement, je ne suis pas convaincue. En tout cas, pas pour la cause noire. C'est ça mon problème.
En tout cas, on vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Un an après, est-ce que la mort de George Floyd a tout changé? Vous répondez non à 89%. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, le retour des vraies voix Sud Radio en compagnie de Clément Barguin et des rois de l'info. On va essayer de se détendre un petit peu, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Vraies voix Sud Radio avec Philippe Bilger, Michel Pouzol, Estella Kamga, Clément Barguin nous rejoint dans le studio de Sud Radio.
Bonsoir.
C'est les rois de l'info.
Bonsoir. Bonsoir.
Les vraies voix Sud Radio. Roi de l'info.
Et ce soir, on joue au roi de l'info avec Diane qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Perpignan. Bonsoir Diane.
Bon.
Vous nous entendez bien?
Oui.
Très bien,
oui,
mais nous aussi,
bienvenue.
On vous entend bien, bienvenue. Alors, les règles du jeu, vous les connaissez, elles sont simples. Trois questions à chaque fois, trois propositions de réponse, une seule est la bonne. Et pour jouer, Diane, vous allez vous associer à une de nos vraies voix du jour. Vous avez le choix entre Philippe Bilger, Stella Kamga ou Michel Pouzol. Qui choisissez-vous?
Monsieur Bilger.
Très bien. Et bien, Diane avec Monsieur Bilger. Et on va commencer avec cette première question. C'est le dernier baromètre des artistes francophones ayant marqué les 20 dernières années qui vient d'être divulgué. Et selon vous, quel artiste francophone arrive en tête de ce classement? Réponse 1, Mylène Farmer. Réponse 2, Vanessa Paradis. Ou réponse 3, Céline Dion?
Pour moi, je dirais Céline Dion.
Oui, c'est la bonne réponse.
Bravo.
J'aurais dit Céline Dion.
Eh ouais.
Il y avait un indice avec francophone.
Francophone. Bah, et Mylène Farmer est deuxième. Elle n'était pas loin, mais pour 51% des sondés, c'est bien Céline Dion qui est la chanteuse la plus iconique des 20 dernières années.
Bravo, un point.
Un point pour vous. On continue avec cette deuxième question. C'est la journée internationale des geeks aujourd'hui. Et savez-vous en quelle année est sortie la première console de jeux vidéo? Réponse 1, en 1955. Réponse 2, en 1972. Ou réponse 3, en 1980.
En 72.
Oui, c'est la bonne réponse.
Elle s'appelait comment?
72.
Quel tennis?
C'était Ralph Baer, qui est un ingénieur, qui travaille sur des radars militaires, qui a eu cette idée géniale d'utiliser cette technologie pour jouer. Et en 1972 sort la première console de jeux vidéo. Elle s'appelait Odyssey et elle contenait un jeu de tennis qui a été très vite repris par l'entreprise Atari, qui a commercialisé ce premier jeu.
C'est
qui
comme
a été
ça qu'Atari est
un succès mondial.
Et j'ai connu ça, maman, monsieur.
Ah, c'est vrai?
Ah oui.
Vous avez été le premier.
J'ai le premier, le Pong. Et puis après, il y avait des canards avec un pistolet, voilà, qu'on tue. Ah, c'était...
Toute une époque.
Toute une époque. Et on s'amusait autant que maintenant.
Diane, deux points, vous faites la course en tête. Alors, pour cette troisième question, on part à Marseille. Le 25 mai 1720 débute la dernière grande épidémie, avant le coronavirus, bien sûr, qui frappe massivement la France. Quelle maladie se propage à partir de cette date? Réponse 1, la fièvre jaune. Réponse 2, la peste. Ou réponse 3, le choléra?
Le choléra.
Non, ce n'est pas le choléra.
Peste.
C'est la peste.
1720.
C'est la peste propagée à partir du Grand Saint-Antoine, un bateau en provenance de Syrie. 40 000 Marseillais meurent de la maladie. C'est la moitié de la population de l'époque. Et c'est 27 mois de confinement à Marseille et 4 ans pour ouvrir complètement la ville.
C'était un traumatisme dans la cité phocéenne qui a toujours accueilli, d'ailleurs, comme c'était le plus grand port français de Méditerranée. Eh bien, le début des épidémies, mais c'est 3-0, non? J'ai bien compté?
Non, pas du tout, c'est 2-1.
Pour Diane.
Récupérez pas vos points, Stella Kamga, sur les erreurs des autres. C'est pas très élégant.
Non,
parce
que
vous avez
parlé
de la peste. La peste est la médiane et la grande gagnante, quand même, des rois de l'info.
C'est vrai, Diane. J'ai perdu, mais à côté de mon point.
Diane, bravo. Bravo à vous. Restez en ligne. Je sais pas avec qui vous jouiez. J'entendais qu'il y avait quelqu'un qui vous soufflait des réponses. Vous avez raison de jouer en famille.
On était toutes les deux là, on parlait et
c'est bien, vous avez gagné toutes les deux.
On peut féliciter Philippe pour son
pour son soutien pour actif,
sa participation et sa présence.
Mais Diane a fait tout le travail. Il n'y a pas de raison.
C'est ce qu'on appelle l'aura bilgérienne. Restez avec nous, ma chère Diane et ma chère Stella aussi. Restez avec nous en ligne au standard de Sud Radio. Mélodie va vous retrouver. Vous allez lui donner votre adresse. On vous envoie et on vous embrasse un mug Sud Radio. La suite des Vraies Voix Sud Radio dans quelques minutes. Nous revenons. Tiens, est-ce que vous vous êtes déjà dit comment m'appellerais-je si je portais à la fois le nom de famille de mon père, c'est le cas, et celui de ma mère? Eh bien justement, un collectif veut rendre ça automatique. Il sera notre invité dans une demi-heure à peu près. À tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les Vraies Voix Sud Radio, avec Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Michel Pouzol, est toujours avec nous. Notre Auvergnat qui va nous parler de son Auvergne dans un instant, porte-parole du Parti Génération. Et Stella Kamga est avec nous aussi, étudiante et influenceuse. Nous sommes en direct sur Sud Radio jusqu'à 19h, chers amis. Tiens, Philippe Bilger, je le disais il y a quelques instants, comment vous appelleriez-vous, vous appelleriez-vous si vous portiez vos deux noms de famille, celui de votre père et celui de votre mère?
Je prendrais peut-être celui de ma mère parce que au moins il ne créerait pas d'incorrection médiatique.
C'est-à-dire
oui. j'en ai eu assez parfois d'être appelé Bilger. J'en ai eu marre. Et donc ça arrive, je le dis à chaque fois, tandis que le nom de ma mère, Gilet, est le plus ordinaire, mais il est facile à dire, il n'y aurait pas d'erreur.
Et par exemple, en tout cas, sachez que notre invité que nous recevrons dans 10 minutes propose qu'automatiquement vous puissiez vous appeler Philippe Bilger Gilet, avec les deux noms, justement Michel.
On est encore libre, donc j'espère qu'on ne va jamais être obligé de le faire.
Et vous en parlerez justement dans un instant avec notre invité, Michel Pouzol, drôle d'idée ?
Ah non, moi je trouve ça très bien, pourquoi pas. J'étais pour le fait qu'on puisse choisir au moment du mariage qu'une femme ne soit pas obligée de prendre automatiquement le nom de son mari, son époux. Je trouve bien pour les enfants. Après tout, les enfants ont parfois deux histoires différentes, qui viennent de deux horizons différents, pourquoi pas les mettre dans leur nom.
C'est vrai que ça arrive dans les familles recomposées en un mot, Stella ?
Bon, non, pas spécialement.
C'est pas votre truc. On en parle dans un instant avec notre invité. Tout de suite, on poursuit le tour de table de l'actualité.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon ? Vous causez de quoi ? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et pas de panique, surtout Michel Pouzol est toujours un Auvergnat. C'est un jaunard. Hein. Il est plutôt rugby, mais il va peut-être se mettre au foot la saison prochaine.
Bah, en tout cas, je vais sortir là, sur mon coup de cœur de ma zone de confort qui est plutôt la politique. Hein. Quand je viens ici, c'est plutôt ça que je vous défends. Et je vais sortir aussi de ma zone de confort du rugby, même s'il y a un match très important pour le top 14 samedi. Oui. Je vous le dis,
ce sera
un sommet
sur Sud Radio.
Toulouse, Montferrand, c'est capital pour les prochaines demi-finales du championnat. Après leur cinquième belle étoile, j'espère qu'ils vont être un peu fatigués, les Toulousains, et qu'ils vont laisser les jaunards gagner, on en a besoin. Non, mais je vais vous parler effectivement d'un sujet qui touche aussi Toulouse d'ailleurs, et Clermont, le football. C'est pas ma nature profonde, mais voilà, je voulais féliciter l'équipe de Clermont Foot qui vient pour la première fois de son histoire de monter en première division, donc qui jouera en Ligue 1 l'année prochaine. D'ailleurs, je crois que Toulouse a un match de barrage et Toulouse pourrait aussi rejoindre Clermont.
Tout à fait, le TFC. Nantes, c'est dans quelques jours.
Voilà, en Ligue 1, ce qui serait marrant d'avoir le même week-end, Toulouse ASM en rugby et Toulouse Clermont en football. Bref, voilà, c'est une belle aventure. C'est un club qui s'est construit dans une grande modestie, qui a développé des valeurs bien auvergnates de sérieux, de rigueur, de patience, qui a construit ce projet sur le long terme, qui a fait une saison extraordinaire et qui là donc va jouer l'année prochaine à la Cour des Grands. Je sais qu'on va notamment aller jouer au début de saison à Saint-Étienne parce que le stade ne sera pas encore plein.
C'est vrai.
Qu'on ira un peu jouer au Marcel Michelin quand les rugbymen nous laisseront le terrain. Voilà, donc à Clermont, ça va être la
Clermont
fusion totale.
Devenir...
Alors là, ça va devenir une terre de ballons ronds chez nous. C'est une révolution
footballistique. Philippe Bilger.
Culturel énorme pour l'Auvergne.
En tout cas, En tout cas, Michel, ils n'ont pas économisé les victoires. On ne peut pas dire que...
Non, ça c'est
vrai. Ils ont été très généreux dans ce domaine.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est difficile pour les footballeurs clermontois ou alors les footballeurs toulousains qui sont un petit peu des clubs de foot mais qui vivent à l'ombre du grand stade et du grand club de rugby d'à côté, Montferrand pour Clermont et le stade toulousain, quintuple champion d'Europe pour les Toulousains.
Je crois qu'il y a que quatre équipes, quatre villes en France, il doit y avoir Lyon, il y a quatre villes en France, Montpellier, où on a à la fois le haut niveau en football et en rugby. Et bien moi je trouve que c'est bien, ça donne une bonne image de la vitalité d'une région, d'une ville et d'un dynamisme. Salut les Auvergnats, je vous embrasse et vous me manquez vivement que j'aille faire un tour au pied des volcans.
Mais vous savez quoi, on va parler de tout de suite, mon cher Michel Pouzol. Pour qui vont voter les Auvergnats lors des régionales qui auront bientôt lieu, justement, on se le demande avec Frédéric Dabi qu'on accueille tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio.
Avec ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, est-ce que Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est bien placé pour conserver sa région ? Frédéric Dabi, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Directeur général de l'IFOP, Laurent Wauquiez, qui est bien placé.
Oui, très clairement, il arrive très nettement en tête. Hein. On avait publié avec Sud Radio dimanche une enquête en région Île-de-France où Valérie Pécresse était à 33%, Laurent Wauquiez est à 36%, il fait mieux que ses 31,5% de 2015. Il arrive nettement en tête. Hein. La deuxième force est à plus de 16 points, le Rassemblement national. On a des enseignements qui sont assez homogènes selon les régions. Hein. Le sortant en position de force, le Rassemblement national en progrès par rapport au régional de 2015, à 20% pour Andrea Cotarac, et une gauche divisé et en difficulté, puisque il y a 12% pour Europe Écologie des Verts, 11% pour le PS conduite par Najat Vallaud-Belkacem et 6% seulement pour la France Insoumise dans une région où le candidat Mélenchon avait fait 19% en 2017. On a une gauche qui en recule de 7 points par rapport à 2015. Avantage très net et c'est confirmé au second tour pour Laurent Wauquiez.
Oui. Est-ce que ça s'explique, cette faiblesse de la France Insoumise, par le fait que la tête de liste du Rassemblement National est lui-même, Andrea Cotarac, un ancien insoumis ?
C'est une hypothèse possible, puisque c'est quand même une des régions où la France Insoumise est le plus faible. Il y a trois fois moins d'attention de vote que le vote réel pour Jean-Luc Mélenchon le 23 avril 2017. Alors, est-ce que tout le monde sait qu'Andrea Cotarac fait partie de la France Insoumise ? Sans doute pas. Hein. Il n'est pas très connu dans cette région, mais il construit sa notoriété. En tout cas, on a un Rassemblement national qui est haut, mais qui n'est pas en situation de jouer les premiers rôles, car on a un phénomène Wauquiez qui occupe bien le terrain au centre droit, à droite et à droite, puisque dans cette enquête, il arrive à capter, par exemple, 15% du vote Le Pen 2017 et un électeur RN des Européennes sur 5, ce n'est pas rien.
Qui vote pour Laurent Wauquiez, le président des Républicains de la région, Philippe Bilger ?
Alors, Frédéric, est-ce qu'on aura le bonheur de vous entendre chaque soir ? Mais ça va devenir une délicieuse habitude.
Un jour, une région.
Frédéric, Andrea Cotarac, sans émettre une opinion politique, est un homme que j'ai pu entendre qui est très talentueux sur le plan de la forme et de la technique. Hein. Mais je pense à Laurent Wauquiez, le score tout à fait remarquable qu'il fait, il vient, je reprends ma question d'hier ou d'avant-hier, d'abord de son bilan, mais est-ce que ça veut dire aussi que Najat Vallaud-Belkacem est arrivé en quelque sorte comme une incongruité et que ça ne suffit pas pour gagner ?
Frédéric Dabi.
Alors, je ne serai pas aussi sévère que vous, mon cher Philippe, sur Najat Vallaud-Belkacem. C'est pas elle qui est responsable du score assez décevant du Parti socialiste. N'oublions pas que le PS était sortant dans cette région avec Jean-Jacques Kerrani. Il avait obtenu presque 24% en 2015. Il y a bien sûr la poussée des Verts dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a vu aux élections municipale, même si
ils sont à 12%,
12% pour votre sondage. Extrêmement faible, c'est nettement moins que les Verts qu'on avait constaté, la poussée qu'on avait vue aux élections européennes, ils étaient à 15%. Clairement, oui, il n'y a pas de phénomène de dynamique Najat Vallaud-Belkacem. Il y a une un peu moins incertain, mais il y a une incertitude par rapport à l'Île-de-France sur l'ordre d'arrivée. Est-ce que Europe Écologie sera en tête ? Est-ce que Najat Vallaud-Belkacem sera en tête ? On est dans la marge d'erreur. En tout cas, ce qui est intéressant, on n'a pas parlé de la liste En Marche dans une région
14%.
Où Emmanuel Macron avait très bien fonctionné, avait très bien percé à l'élection présidentielle. On n'a que 14% des votes en faveur de Bruno Bonnel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même Laurent Wauquiez, qui n'apparaît pas comme un macroniste de choc, c'est le moins qu'on puisse dire, arrive à séduire un électeur Macron sur quatre. C'est aussi ça. La liste, la dynamique Wauquiez, c'est une liste attrape-tout. Un élément quand même d'exception qui est très frappant, et on l'a également à l'échelle nationale, c'est la capacité du RN désormais à séduire des salariés, puisque auprès des salariés du secteur privé, en Auvergne-Rhône-Alpes active, ils sont à égalité, André Cotarac et Laurent Wauquiez, avec 31%.
Ce qui est quand même énorme. Michel Pouzel, la division de la gauche.
Les choses sont claires. La gauche unie ne ferait peut-être pas en politique. En plus, ça ne fait pas forcément deux, mais en tout cas, elle serait dans les 25, sans doute 24-25%, et serait le principal adversaire de Wauquiez. Donc on voit bien que la division de la gauche, partout où elle a lieu, est délétère. Elle est mortifère. Si on n'arrive pas
à la gauche, en tout cas.
Bah oui, pour la gauche, bien entendu. Je me connais de ces idées-là. Donc, si on n'arrive pas à le comprendre, malheureusement, c'est les populations qui en souffrent. Le bilan sur le terrain pour les gens qui y vivent de Wauquiez est beaucoup moins enthousiasmant que ce qu'on en retranscrit dans les médias. Moi, je vous le garantis. Donc voilà, il faut que la gauche se réunisse. On savait que cette élection serait une prime au sortant. Ça aurait dû être une raison supplémentaire pour créer l'union dans tous les endroits possibles et imaginables. Pour les régionales, ça n'est pas. Ouais. C'est un peu mieux pour les départementales. On verra bien le résultat. Si les départements peuvent montrer le modèle aux régions, ça serait déjà pas un moindre mal pour la gauche.
36% en tout cas donné dans ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio à Laurent Wauquiez, le président Les Républicains sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est plus que bien placé effectivement pour la conserver aux prochaines régionales. Merci à vous, Frédéric Dabi.
Merci, à bientôt.
Directeur général de l'IFOP, à bientôt avec une nouvelle région. On continue le Tour de France avec vous, cher Frédéric Dabi. Restez avec nous sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Dans quelques minutes, notre grand débat. La France, le pays de Pasteur, est-il devenu le pays des antivax? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826-300-300. On en parle avec notre invité dans quelques minutes, qui sort une enquête édifiante sur le pays, justement, des antivax. À tout de suite. Un truc qui me colle encore.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Et toi, c'est quoi ton nom?
C'est quoi ton nom? Ben, écoutez, normalement, en théorie, dans la plupart des cas, notre nom de famille, en tout cas, c'est celui de notre père. Depuis, effectivement, la loi du 4 mars 2002, les parents peuvent choisir le nom que vous souhaitez, qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Mais un collectif propose justement qu'on porte les deux noms. Bonsoir à vous, Marine Gatineau-Dupré.
Bonsoir à vous.
Bienvenue
Merci
à vous.
Pour l'invitation.
Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes la cofondatrice du collectif Porte mon nom, c'est ainsi qu'il s'appelle. Vous êtes dans l'Hérault, je crois, avec d'autres mamans, notamment, pas que des mamans, avec un député en marche de l'Hérault qui s'appelle Patrick Vignal et qu'on a déjà reçu.
Ah, bien sûr.
Vous portez justement ce combat pour que, automatiquement, à la naissance, on hérite du nom de son père et de sa mère. Pourquoi?
C'est au-delà de ça. C'est pas. En fait, on demande une automatisation du double nom, mais c'est pas une obligation qu'on demande. On demande donc cette fameuse automatisation pour pouvoir faire évoluer les mentalités, changer ces traditions et arrêter de faire subir cette pression familiale, sociétale, actuelle sur les mamans.
Alors, expliquez-moi justement, quel type de pression, par exemple, on parle, j'ai vu que vous avez lancé une pétition, vous avez recueilli quelques milliers de témoignages. Concrètement, c'est quoi le problème du nom de famille dans la vie quotidienne?
Concrètement, là, oui, en effet, on a reçu déjà 2400 témoignages via un questionnaire. Ouais. Et on a pu voir qu'il y avait 13% des femmes qui ont déjà exprimé le fait qu'elles n'avaient pas eu le choix à la naissance. Et ça, on a beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Donc déjà, c'est un fait, pour moi, grave. Au-delà de ça, il faut savoir qu'en 2013, on a pu être en désaccord grâce à la loi Taubira et du coup avoir les deux noms par ordre alphabétique. Mais sauf que le désaccord, quand on est enceinte, dans un état de vulnérabilité, c'est pas trop le moment de se mettre en discuter avec son conjoint. On peut pas être en désaccord à ce moment-là. Donc pour moi, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'on demande cette fameuse automatisation du nom.
Alors, c'est quoi la différence? Vous l'avez dit, c'est-à-dire, vous avez dit automatisation, mais pas obligatoire. Donc, du coup, c'est quoi la nuance entre les deux?
La nuance, c'est qu'en fait, on part du principe que ça sera toujours le double nom pour tout, dans toutes les administrations maintenant. Mm-hmm. Sauf ceux qui veulent avoir le simple nom. Du coup, il faudra faire une déclaration commune. En fait, on va inverser un petit peu ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. Et ça permettra justement de voir bah, si les mères elles vont réaliser en fait qu'elles peuvent transmettre leur nom et on, voilà, on peut changer ça quoi.
Et juste avant de donner la parole à nos vraies voix, je voulais relever aussi un témoignage que, dont vous avez fait part avec votre collectif Porte Mon Nom. C'est notamment des mères célibataires qui sont séparées du père de leur enfant, qui vivent avec ces enfants, qui portent pas le même nom et qui expliquent que souvent elles doivent justifier auprès de l'administration qu'elles sont bel et bien les mères de ces enfants qui s'appellent différemment d'elles-mêmes. Ça arrive très souvent.
Ben voilà, en fait, c'est ça qui est insupportable. C'est tout le temps, en fait. En permanence, à partir du moment où on n'a pas le même nom, du coup, il faut prouver être la mère. Donc, il faut avoir les livrets de famille. Mais des fois, ça va être encore plus loin. Il va falloir donner l'autorisation du père. Quand on prend l'avion, c'est carrément, on nous accuserait d'avoir kidnappé nos enfants. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a carrément des fois des pères absents ou des mères absentes aussi, parce que c'est un collectif pour tout le monde. Ou alors carrément qui ont abandonné l'enfant. Sauf que dans notre quotidien, quand on nous demande l'autorisation du père, quand on n'a pas le même nom, comment elles font ces femmes-là en fait. Et vous savez comment elles font? Ouais. Bah, je vais vous dire, moi, elles font des faux documents. Donc en fait, la loi nous oblige à faire des faux. Non, c'est pas possible, il faut changer ça.
C'est en tout cas pour ça que vous portez ce combat avec le député Patrick Vignal, qui doit évoquer la semaine prochaine ce sujet avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Philippe Bilger, nos vraies voix, juste après.
Eh bien, d'abord, j'aime énormément le ton paisible de notre invité, un féminisme que je peux admettre, et c'est un bonheur. Elle m'a presque convaincu, la nuance entre automatisation, évidemment, et obligation, autrement dit, ce sera aux autres, à ceux qui veulent rester dans la normalité d'aujourd'hui, à faire des efforts. Pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait prêt à changer, d'autant plus que ça ne me concernera plus.
Mais vous avez rendu féministe, Philippe Bilger, ma chère Marine Gatineau-Dupré, bravo à vous, quand même, c'est un sacré exploit. C'était la Camga.
Alors, bonsoir Marine, enfin, heureusement, vous aurez deux invités pour vous et une contre, enfin, par contre, mais qui a des doutes.
En désaccord. C'est-à-dire,
voilà. Un désaccord, je dirais moi. Je comprends pas pourquoi certaines femmes soient obligées, en réalité, de faire du faux, normalement, hein, parce que je me trompe, et je n'ai jamais vu un acte de naissance français, mais est-ce que sur l'acte de naissance, c'est pas mentionné nom de l'enfant, nom du père et nom de la mère? Et donc, si c'est mentionné sur l'acte de naissance de l'enfant que la mère c'est elle, le père c'est elle, pourquoi avoir besoin d'un faux?
Question, réponse. Marine Gatineau-Dupré.
Mais parce que des fois, on va demander l'autorisation du nom. En fait, par exemple, si vous voulez rajouter votre nom en nom d'usage, ça a été il y a eu beaucoup de témoignages en ce sens-là. Il faut l'autorisation de l'autre parent. Un nom d'usage n'est pas transmissible, c'est juste pour un petit peu alléger les démarches administratives et exister. Donc, il faut en fait l'autorisation de l'autre parent. Mais quand il n'y a pas l'autre parent, comment on obtient l'autorisation? Et quand l'autre parent, de toute façon, a décidé de ne pas donner l'autorisation, on ne peut pas.
C'était la Camga.
Mais en temps normal, justement, que l'enfant ait ou pas le nom de son père ou de sa mère, à partir du moment où il a deux parents, un parent, selon la loi, n'a pas le droit de sortir du territoire, par exemple, surtout si l'enfant est mineur, sans l'avis de l'autre parent. Donc en réalité, pour moi, ça ne change rien, et vice-versa.
Bon, la réponse de Marine Gatineau-Dupré, ensuite Michel Pouzel.
Oui, alors là, on parle par exemple, on a eu des problèmes en France, hein, déjà, pour prendre l'avion, juste en France. En fait, mais moi, les soucis que j'ai eus, c'est pour aller en Europe. Donc, ça a été en Espagne et en Angleterre. Quand on a vu que j'avais pas les mêmes noms que mes enfants, on m'a non seulement demandé de présenter le livret de famille, donc pas de soucis, mais en plus de ça, on m'a demandé de prouver donc les jugements pour voir si c'était bien le week-end, mon week-end à moi. Et en plus, on m'a même demandé par moment soit une autorisation du père, la mutuelle même. Et je vais vous dire, en fait, à l'inverse, je vais vous poser une question. Oui. Moi, si par exemple, mon ex, se remarie, et la nouvelle femme a le même nom que mon enfant, quand elle va partir avec son compagnon, avec son ex, du coup, avec mon ex, et bien par déduction, en fait, on va penser que c'est la mère, donc il n'y aura pas de question.
Et c'est pourquoi vous voulez, en tout cas, que justement vous et les autres mères dans votre situation puissent transmettre leur nom. Michel Pouzel, le mot de la fin.
Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense aussi aux couples nombreux qui ont des enfants sans être mariés, où les deux parents reconnaissent l'enfant. Eh bien, je trouve que c'est deux histoires. Un enfant, c'est le fruit de deux histoires qui se rencontrent, bien ou mal, souvent bien, heureusement.
Heureusement.
La majorité. Oui, mais il faut penser à quand ça se passe un peu moins bien. Eh bien, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et je pense qu'il y a même, une vertu à ça pour, dans des familles dysfonctionnelles ou traumatiques, qui permettent aussi de se reconstruire différemment en ayant un nom qui ne soit pas simplement celui, parfois, d'un agresseur ou d'un maltraitant. Donc, moi, je suis ravi. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais ça ne m'étonne pas de Philippe Vignal qui soutient
Patrick votre Vignal. Cause.
Patrick Vignal, par contre.
Député En Marche.
Voilà,
de
que
l'Hérault.
J'ai bien fréquenté quand il était sur l'autre banc.
Oui, ancien socialiste comme vous, exactement. Voilà. Merci à
un
vous.
Excellent député.
Oui, en un mot, alors, Marine Gatineau-Dupré.
Ah ben, en un mot, nous nous battons aussi pour qu'en cas de séparation, de dépacs et de divorce, on puisse rajouter le nom. Du coup, je rejoins votre invité, mais c'est important aussi de le signaler.
C'est important
c'est un combat global pour tous et pour toutes.
Merci à vous, en tout cas, Marine Gatineau-Dupré. On suivra votre mobilisation. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice du collectif Porte mon nom. Restez avec nous sur Sud Radio. Changement d'ambiance, mais c'est dans l'air du temps. Est-ce que le pays de Pasteur est devenu un pays anti-vaccin? On en parle dans quelques instants en direct sur Sud Radio avec notre invité qui publie une enquête édifiante du côté des éditions Plomb. Enquête au pays des anti-vax. À tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Stella Kamga, Philippe Bilger et Michel Pouzol en direct sur Sud Radio jusqu'à 19h. Tout de suite, voyage au pays des anti-vaccins.
En France, 6 personnes sur 10 ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.
Une piqûre, voilà qui est bien mystérieux.
On n'a pas de recul sur ces vaccins-là.
Ça m'énerve qu'on administre à des gens un vaccin bidouillé que même le patron de Pfizer refuse de s'inoculer.
On a développé en un an et demi un vaccin qu'en règle générale on met 5 à 10 ans à développer.
Quand je lis dans le journal que les gens qui ne sont pas vaccinés seront défavorisés, comment on peut dire un truc pareil?
On est au pays de Pasteur, il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Bah tant pis pour eux, qu'est-ce que je vous dis ?
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Vous avez reconnu plusieurs voix dans ce montage du réalisateur des vraies voix Sud Radio, Jamel Abdellah, Jean-Marie Bigard, que vous avez entendu. François Berléand, à la fin, qui se lamentait sur ce qui était devenu, selon lui, le pays de Pasteur. Bonsoir à vous, docteur Olivier Jourdain.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous avez publié il y a quelques jours, on est les premiers, on est ravis de vous avoir en direct sur Sud Radio, on est les premiers. Vous avez publié Enquête au pays des antivax. C'est publié aux éditions Plomb. Dans ce que vous venez d'entendre, que notre réalisateur vous a proposé d'entendre, vous avez entendu des propos qui soit sont sceptiques sur la rapidité, c'est vrai, qui est historique du développement d'un vaccin sur une maladie nouvelle qu'est le coronavirus. Et à côté de ça, des propos clairement erronés ou alors péremptoire sur le vaccin est bidouillé, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Voilà. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que vous considérez, qu'est-ce qu'un anti-vax d'abord? Est-ce que quelqu'un qui se dit le nouveau vaccin, j'en ai peur, ou je préfère attendre de voir, mais les autres, j'ai pas de problème avec, c'est aussi un anti-vax ou pas?
Oui, la question est très importante. Hein. Il faut bien différencier deux catégories d'anti-vax. Il y a les résistants, ceux qui sont des militants, et on en a entendu certains parmi les petits extraits que vous venez de diffuser. Et puis, il y a les hésitants, qui sont l'immense majorité, qui sont des gens qui finalement sont un petit peu perdus avec de très nombreux messages dans tous les sens et qui savent plus trop quoi penser. Et ceux-là, je crois qu'il faut s'y intéresser parce qu'il faut justement que on soit capable de développer une communication qui soit audible par ce public.
En tout cas, pour rassurer ceux qui en ont peur. Vous êtes vous-même à Bordeaux, en direct de Bordeaux, sur Sud Radio. Vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher justement sur la résistance vaccinale, en tout cas la peur du vaccin?
Alors, cette histoire remonte bien avant l'épidémie de Covid, parce que moi, je suis gynécologue, je suis chirurgien, donc pas nécessairement avec une vocation de vaccinologue, mais en gynécologie est apparu il y a quelques années, en 2006, le vaccin pour le papillomavirus, qui a fait l'objet d'un mouvement anti-vax assez puissant, et c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à ce mouvement.
C'est là que vous vous êtes penché justement. Qui sont-ils? D'où ça vient? On va faire... Je vais donner la parole dans un instant aux vraies voix et à vous tous qui nous écoutez, qui nous appelez au 0826-300-300. Un petit peu d'histoire. D'abord, vous revenez 1721, la naissance de l'inoculation avec Lady Mary Wortley Montagu. Et vous le dites d'ailleurs, dès que l'inoculation commence, ça suscite dès le début en fait des résistances aussi bien de scientifiques que de religieux. C'est pas nouveau.
Complètement. Alors, la démarche de mon livre, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre, parce que je crois qu'on peut pas lutter contre un phénomène qu'on ne connaît pas, et donc l'idée, c'était de comprendre, et donc de remonter à l'histoire, parce que je crois que pour comprendre un phénomène, il faut connaître son histoire. Et effectivement, les mouvements anti-vax apparaissent au XVIIIe siècle. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook ni de Twitter, mais on a déjà des gens qui résistent pour des tas de raisons philosophiques qui sont d'ailleurs pas forcément si éloignées de celles qu'on rencontre aujourd'hui.
Alors, quelles sont ces raisons, justement? Qu'est-ce qui fait que le vaccin, on en a plus peur que de n'importe quel médicament dès le début, en tout cas certaines personnes?
Alors, c'est un médicament un petit peu particulier parce qu'on l'utilise pour des gens qui ne sont pas malades, donc c'est ça qui fait la grande différence, hein. Mais on se heurte finalement à une idée de prévention. Et là, la prévention, c'est aussi quelque chose qui est malgré tout assez nouveau et dont on n'a pas forcément beaucoup encore l'habitude. Et c'est un regret à titre personnel, mais beaucoup de médecins le pensent comme ça. Et je crois que c'est un vrai regret. Et donc oui, on s'aperçoit que, et c'est le cas aujourd'hui, que finalement, c'est des gens qui aussi, en s'opposant au vaccin, s'opposent plus généralement à tout le système qui porte cette prévention et ce vaccin. Et donc, la philosophie globale dépasse largement, en tout cas, je parle des résistants, là, pour l'instant, hein. Ceux qui résistent et qui sont vraiment militants contre la vaccination sont très souvent militants contre beaucoup d'autres sujets, et le vaccin n'est qu'un élément parmi d'autres. On l'a vu au XVIIIe siècle, il y a les religieux, il y a un certain nombre de philosophies qui sont opposées à cette vaccination, à cette variolisation. Et ça fait toute la difficulté de l'argumentaire et de l'argumentation vis-à-vis de ces gens-là qui, finalement, traduisent par une résistance à la vaccination une philosophie beaucoup plus large et qui ne sera pas accessible à un argumentaire scientifique.
Et vous vous penchez justement dans votre ouvrage, on va y revenir, sur les différents profils d'ailleurs de militants, qu'ils soient anti-vaccins ou pas, profil hétéroclite, hein, c'est-à-dire qu'il n'existe pas le profil type de l'anti-vax. Philippe Bilger.
Docteur, alors encore une fois, pardonnez une question de profane. J'avais l'impression d'un processus qui commençait singulièrement à s'améliorer. Au début, il m'a semblé que le gouvernement faisait en quelque sorte toute sa promotion pour convaincre les anti-vaccins. Et puis, peu à peu, la France, semblait-il, comprenait l'utilité de la vaccination. Et d'ailleurs, c'est ce qui créait peut-être l'atmosphère plus calme, plus bienfaisante d'aujourd'hui. Et en vous écoutant, je me demande si je ne me suis pas trompé, si en réalité le pouvoir des anti-vaccins n'est pas toujours aussi considérable qu'avant. Est-ce que ce hiatus existe ou est-ce que je me trompe totalement ?
Olivier Jourdain.
Alors, on a entendu, de, si je ne me trompe pas, un petit extrait d'Élise Lucet qui évoquait 60% de résistance à la vaccination en France. Je crois que c'est un chiffre qui provient d'une étude internationale pilotée par une femme qui s'appelle Eddie Larson, qui est anglaise, et qui, dans certains de ses questionnaires, a retrouvé ce type de chiffre. C'est quelque chose qui était un chiffre qui a été un peu monté en épingle, mais qui aujourd'hui a beaucoup évolué, et plutôt positivement, ce d'autant que nous sommes en période d'épidémie. Et l'histoire le confirme à toutes ces pages, hein. Lorsqu'il y a une épidémie, le message anti-vax, finalement, est moins audible parce que les gens ont peur, les gens voient des patients malades, et on le voit avec la COVID aujourd'hui, il y a des patients en réanimation. Il y a socialement un impact de l'épidémie qui est majeur. On est tous fortement impactés par ça. Et donc, finalement, les gens, et on le voit, ont envie de se vacciner. Je vous rappellerai pour l'exemple, hein, que quand on a commencé en mois de janvier à vacciner les personnes âgées dans les EHPAD, on nous a dit, et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont commencé à organiser une campagne en prévoyant 60 ou 70%. Aujourd'hui, on est à plus de 95% de vaccination dans les EHPAD. Les personnes âgées ont envie de se vacciner parce qu'elles ont envie de revivre normalement et elles en ont marre d'avoir peur de cette maladie. Donc la période d'épidémie est une période très particulière dans la réception des messages anti-vax.
Vous revenez aussi, Olivier Jourdain, sur d'autres peurs contre d'autres vaccins avant même le Covid. Qui n'a jamais croisé une publication Facebook qui explique qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins ? Ça pose un problème. Vous parlez aussi de la peur de la sclérose en plaques dans votre livre. Comment on explique que ces peurs se soient répandues aussi facilement et notamment via les réseaux sociaux ? D'où elles viennent ?
Alors, ces peurs, au départ, viennent de vraies questions. Je veux dire, je pense qu'il ne faut pas éluder les vraies questions. La question, par exemple, de la sclérose en plaques et de l'hépatite B s'est posée. Pour tout vous dire, moi, j'ai été un des tout premiers, étant étudiant à Tours, où a été découvert le premier vaccin pour l'hépatite B. J'ai fait partie des premières cohortes de patients test.
Vous le racontez, donc, d'ailleurs.
Je me suis posé la question à titre personnel et c'est une question qui est tout à fait recevable. Après, je crois qu'il y a une vraie vérité scientifique et que la vérité scientifique, il faut la comprendre, l'accepter après l'avoir étudié. Et ça, aujourd'hui, maintenant, pour l'hépatite B, les données sont claires. Bon, après, il y a la vérité scientifique et puis il y a la vérité juridique concernant l'hépatite B. Et la vérité juridique en France n'est pas la même. Et j'explique dans mon livre pourquoi. Parce que les juristes, finalement, considèrent que s'il y a peut-être un petit doute, peut-être faut-il indemniser, et peut-être est-ce une forme aussi d'indemniser des gens qui sont dans une grande difficulté, parce que moi j'ai rencontré des patients touchés par des scléroses en plaques, et c'est souvent très handicapant, et la prise en charge sur le plan des aides diverses et variées, en particulier pour les adultes, n'est pas forcément très performante, et quelque part on peut se dire finalement on peut aider d'une manière ou d'une autre ces patients-là.
Sauf que ce que vous dites, c'est que dans ce cas précis, par exemple, on décide d'indemniser malgré ce que dit la science, c'est ce que vous dites.
Absolument.
C'est-à-dire que la science dit qu'il n'y a pas de lien, mais en revanche, la justice fait comme si, en tout cas le droit, les juristes font comme si c'était le cas.
Absolument, absolument.
Et ça pose un problème, est-ce que vous pensez que ça entretient la peur ou pas?
Alors, je pense que ça entretient la peur. Je pense que si vous voulez, sur le fond, aider des gens qui ont une sclérose en plaques, ça ne me paraît pas choquant. Par contre, que ce soit au prix de l'installation d'une peur sur la vaccination en général, ça, c'est dangereux et ça m'inquiète.
Michel Pouzel, puisque tu es là.
Oui, non, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le mouvement de l'anti-vaccination parce que quand j'entends des gens qui nous disent qu'ils ne savent pas quelles sont les conséquences à long terme, ce sont des gens qui connaissent tous ces conséquences à long terme de l'alcool, du tabac, du café, de la malbouffe, de la pollution atmosphérique, et qui pourtant continuent à prendre leur diesel en fumant leur paquet de cigarettes blondes. Voilà. Donc j'ai un peu de mal à comprendre cette manière de fonctionner dans un monde qui perd ses repères, mais... Ce que je voudrais redire, c'est que ça a des conséquences tragiques. On a vu, notamment, je crois que c'est à New York, mais ça s'est passé aussi en France, des flambées et des morts d'enfants de la rougeole, alors que c'était une maladie éradiquée par la vaccination systématique. Et qu'un enfant qui amène la rougeole dans une école, il l'attrape lui, mais il peut aussi la faire circuler. Et donc, il y a des conséquences tragiques. Après, dans l'époque actuelle, moi, j'ai pas eu le temps de lire votre livre, mais je pense que je vais le faire rapidement, parce que c'est un sujet passionnant. J'ai aussi l'impression quand même que dans l'époque actuelle, dans l'époque Covid, particulièrement depuis un an et demi, on a donné des amplificateurs de voix à des gens qui finalement, dont le ton ne portait pas vraiment. Enfin, la manifestation qui nous fait beaucoup parler depuis ce week-end, il y avait 200 personnes.
Celle où vous entendiez Jean-Marie Bigard.
Voilà, je pense qu'il suffit d'écouter deux, trois réflexions qui ont été faites là-dessus pour franchement, douter du manque de sérieux global de ce qui s'est dit. Mais vous avez raison, je pense qu'il va falloir qu'on ait une pédagogie encore plus forte, parce que ce serait dramatique, ce serait un vrai recul si on revenait sur l'idée que la vaccination sauve des vies. Et c'est bien le cas depuis, je dirais, depuis
Pasteur. Dans un instant, la réponse d'Olivier Jourdain, la question aussi de Stella Kamga, 0826-300-300, un tout petit aller-retour rapide par Bordeaux également. On retrouve Marc sur Sud Radio. Bonsoir à vous, mon cher Marc.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Sur Sud Radio. Vous, est-ce que vous avez eu peur ou est-ce que vous avez peur de vous faire vacciner ?
Alors, rapidement, au départ, j'étais pas du tout décidé à accepter le vaccin, parce qu'effectivement, la technique de l'ARN était peu connue, le développement rapide, c'est pas quelque chose de qui incite à la confiance, mais il faut dire que j'étais convaincu d'être dans une santé parfaite et de ne pas avoir de comorbidité. Or, il y a deux mois, suite à quelques soucis de santé, j'ai appris que j'avais des comorbidités, et le médecin, le spécialiste que je suis allé voir, m'a vivement conseillé de me faire vacciner. Et d'un seul coup, bah, le risque m'a semblé plus prégnant et je me suis fait vacciner sans me poser de questions, en fait.
Et vous pensez plus, du coup, vous avez plus peur, vous n'étiez pas convaincu parce que c'était une technologie nouvelle, en tout cas la vaccination ARN, et du coup, là, vous ne regrettez pas, quoi?
Non, pas du tout.
Vous êtes plutôt serein. Et vous comprenez ceux qui ont encore peur?
Difficilement. En fait, le problème, je crois que pour beaucoup, on ne se sent pas concerné dès lors que l'on n'imagine pas faire partie des populations à risque, en réalité. Parce que malgré tout, c'est vrai que c'est une maladie qui a un taux de létalité qui est assez bas. Mmh. Parce que je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. S'il y avait un taux de létalité élevé avec un vaccin même à risque,
tout le monde irait
pour aller se faire vacciner. Donc,
merci à vous, Marc, en tout cas. Bon courage. Et restez avec nous sur Sud Radio, tant que vous voulez, d'ailleurs, en direct dans les vraies voix. Et rappelez-nous quand vous voulez au 0826 300 300. Olivier Jourdain, vous allez répondre justement, vous parliez de ces gens aussi qui hésitent par moment, puis qui changent d'avis, on va en parler dans un instant. C'est la CAMGA.
On en parlait, Jean-Marie, sur le profil justement des personnes qui sont contre la vaccination. Est-ce que, si je peux me permettre de citer en premier, il y a Jean-Marie Bigard et Florian Philippot, qui organisent des manifestations qui ont sens et qui disent
Moment, c'est aussi contre le pass sanitaire. C'est-à-dire que si on est précis sur les faits, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ce
ils sont aussi très anti-vaccins. Je suis particulièrement Florian Philippot sur ces réseaux, donc je sais exactement de quoi il parle. C'est curieux parce que ces personnes-là, c'était des personnes qui supportaient Donald Trump. Et c'est là justement où c'était ma première rencontre avec Michel, où on s'était pas du tout entendu. Mais s'ils sont honnêtes et au moins cohérents, c'est que s'ils supportaient Donald Trump, normalement ils doivent savoir que Donald Trump justement fait partie de ces personnes-là qui a voulu accélérer la création du vaccin pour justement rehausser ses points.
Contre le coronavirus.
Oui, c'est pour rehausser ses points au niveau des sondages, parce que justement on lui reprochait d'avoir mal géré la crise du coronavirus et tous les morts qu'il y a eu aux États-Unis. Donc il est le premier président de la première puissance mondiale qui a mis la pression pour que le vaccin en question puisse sortir le plus rapidement possible.
C'est vrai que factuellement, il y a eu des milliards de dollars qui ont été donnés par les États-Unis, notamment pour investir dans la recherche.
Exactement. Donc lui, il aurait voulu en fait que le vaccin sorte assez rapidement, que tout le monde soit vacciné pour redorer son argent. Sauf que malheureusement, le vaccin est sorti après. Bon. Et bien évidemment, il a fallu que le reste des pays, notamment la Russie, l'Europe, suivent le mouvement parce que c'est la politique. Ils doivent tous être au même niveau d'égalité. Donc, c'est d'une part aussi ce qui explique la rapidité et la création du vaccin, sans compter que nous sommes en 2021 et les processus de création de vaccins, la technologie, les appareils, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le même contexte que d'il y a 1700 ans
Bien
ou
sûr.
1800 ans.
Évidemment.
Donc, je comprends que beaucoup de gens soient superstitieux sur la question. Moi, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de doutes, mais quand on évalue et qu'on pose tout ça sur la balance, on se dit honnêtement qu'il n'y a pas de raison. Et bien évidemment, comme Michel
J'aimerais
disait...
qu'on propose le mot de la fin, justement.
Oui, je finis en deux phrases. Comme Michel disait tout à l'heure, s'il y a même les médicaments, même le Doliprane, peu importe le médicament qu'on prend, qu'on achète en pharmacie, il y a des effets indésirables.
Donc, le mot de la fin, justement.
Voilà, je veux bien voir les gens venir manifester pour les mêmes effets.
Le mot de la fin avec Olivier Jourdain. Beaucoup de sujets abordés, malheureusement, on ne pourra pas tous les aborder. Une chose qu'on peut retenir d'abord, c'est la variété des profils, y compris politiques. Un humoriste, on en parle, un homme politique qui vient d'une partie du spectre politique, vous en trouverez aussi à gauche. Comment on explique cette variété extrême des opposants au vaccin ?
Oui, ils ont des points communs. Le point commun, c'est que, si vous voulez, ils refusent un petit peu le système et ils n'ont pas confiance dans leurs autorités sanitaires, administratives et politiques. Hein. C'est ça le point commun, très clairement. Mais je voudrais rebondir sur un point qui est fondamental, qui ressort quand même sur toutes les petites sonos que vous avez fait au départ. Le vaccin pour la Covid, si vous voulez, n'est pas un vaccin bradé, c'est un vaccin qui a bénéficié d'études dont aucun vaccin au préalable n'avait pu bénéficier. Aucun vaccin n'a d'effet secondaire au-delà de 2 mois. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de recul, c'est totalement faux. Il y a les études pivots de tous les vaccins qui sont sortis ont largement plus de 2 mois de recul, ce qui est suffisant pour en garantir la sécurité. Hein.
Et c'est le message justement que vous pourriez d'ailleurs renvoyer à Marc, qui nous appelait au 0826 300 300 depuis Bordeaux et qui nous disait justement, j'ai fini par changer d'avis et par me rassurer. C'est à lire justement pourquoi y a-t-il autant d'antivax, pourquoi les gens doutent justement, d'où ça vient, de quand ça date. Enquête au pays des antivax est publié chez Plon, c'est signé du docteur Olivier Jourdain, merci à vous d'être intervenu ce soir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio en direct de Bordeaux. Merci à vous. Restez avec nous, chers amis, sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio reviennent dans quelques instants. Direction le Sud pour le clin d'œil des Vraies Voix, sera avec Clément Barguin.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, pour le clin d'œil des vraies voix avec Clément Barguin qui nous rejoint direction le Lot ce soir à Montgestie, plus précisément Clément Barguin.
Et oui, petite commune de moins de 350 habitants, le village va renouer avec la tradition du café rural. Le grand jour, ce sera samedi, le nouveau café épicerie multiservice va ouvrir ses portes. Cela faisait plus d'un an qu'il n'y avait plus de commerce dans le village. Alors le maire et ses administrés se sont battus pour préserver la vitalité du village et on est heureux d'accueillir sur Sud Radio le maire de Montgestie. Bonsoir Jean-Noël Galtier.
Bonsoir.
Alors on parle beaucoup de la revitalisation des petites communes. Là c'est un exemple bien concret. Vous avez fait des pieds et des mains pour ouvrir ce café épicerie, le seul commerce restant dans le village. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça faisait un an qu'il n'y avait plus rien dans votre commune.
Ben, ça fait un an, le jour des élections, le premier tour des élections, notre petit commerce qu'on avait sur la commune a fermé ses portes pour différentes raisons. Donc, avec le conseil municipal, on a décidé que le village se devait d'avoir un commerce. C'était la vie du village, c'était la vie aussi pour tous les habitants et du territoire. Donc voilà, ouvrir un commerce dans une commune de 340 habitants, la municipalité, c'était pas notre tasse de thé pour tenir la gérance et l'ouvrir comme ça. Donc on a saisi la balle au bon de travailler avec le groupe SOS.
C'est ça.
Et Mille Cafés.
Qui se bat pour revitaliser les petites communes, pour réinstaller des cafés. Donc là, c'est un commerce, c'est pas uniquement un café. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce lieu? Il y aura plein de services qui vont être proposés aux habitants.
Mais ce qu'on va proposer aux habitants, c'est le café.
Le traditionnel café.
Épicerie, dépôt de pain. Le gérant que l'on a pris est cuisinier. Ouais. Donc, c'est plus facile de former un cuisinier à l'épicerie qu'un épicier à la restauration. Donc, on va faire de la restauration.
Vous allez tout faire, en fait. Vous allez réveiller votre village.
On va réveiller le village.
Il y aura des journaux.
Il y aura un relais-poste.
Relais-poste. Philippe Bilger demande la dernière question. Est-ce qu'il y aura des journaux, la presse?
Alors,
très
il y
important.
Aura des journaux. Ouais. On a des journaux locaux, comme dire sur le Lot et tout ça. Mais notre quotidien, je dirais, la Dépêche du Midi. Mmh. On a du mal à... On essaye avec 1000 cafés de les avoir pour qu'on puisse avoir un dépôt. Mais là, on a un peu de mal. Mais j'espère que votre appel peut-être nous...
On transmettra la demande à nos amis de la Dépêche du Midi qu'on entend régulièrement sur Sud Radio. Longue vie à ce café que vous avez justement sauvé à Montgestie. Il y a des centaines et des centaines de communes rurales de plusieurs centaines d'habitants justement qui se battent pour rouvrir ne serait-ce que ce qui serait le seul et unique commerce multiservice. Merci à vous Jean-Noël Galtier, maire de Montgestie dans le Lot, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci à toutes nos vraies voix. Philippe Bilger, qu'on on retrouve demain à partir de 17h. Michel Pouzol, Estelle Lakemga, qu'on retrouvera très bientôt, tout comme l'inévitable Clément Barguin. À suivre à sur bientôt. Sud Radio, les voix de l'emploi. Toutes vos questions justement sur l'emploi et votre carrière, c'est avec Christine Bier et Yves de Risbourg. À tout de suite.